Oui, bonsoir Olivier Besancenot.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex du congrès fondateur du NPA à la Plaine Saint-Denis près de Paris. Vous avez dit à la tribune d'ailleurs de ce congrès ce matin que l'intervention de Nicolas Sarkozy à la télévision donne 90 raisons de se mobiliser davantage. N'y a-t-il à l'inverse pas une seule raison de trouver que le chef de l'État évolue dans sa position, ne serait-ce qu'un peu ?
Bah écoutez, non, il évolue pas. Il a au moins été clair sur cette question. Il a dit qu'il continuait les réformes qu'il applique depuis le départ, que pour lui, à l'heure de la crise, il fallait accélérer, et que par ailleurs, il n'a pas annoncé une seule solution concrète pour les victimes de la crise. En revanche, il a annoncé des solutions très concrètes pour ceux qui sont responsables de la crise, puisque pour les entreprises, il y aura un nouveau cadeau fiscal supplémentaire avec la suppression planifiée de la taxe professionnelle. Donc quand j'entends parler ici ou là de virage social de la politique du gouvernement, je crois que c'est doublement mensonger. Il n'y a ni virage, il y a une continuité et il n'y a pas de social. Donc je crois qu'en effet, c'est une raison supplémentaire de se mobiliser. Maintenant, j'en attendais pas grand-chose, hein, pour rien vous cacher, de cette déclaration et j'ai pas été déçu.
Mais supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu ou augmenter les allocations familiales, faire payer par l'État les chèques emploi-service des mères de famille seules ou des personnes âgées, partager les bénéfices des entreprises sur le principe un tiers salarié, un tiers actionnaire, un tiers investissement, tout cela, à vos yeux, ne constitue pas même un premier petit pas vers les salariés en difficulté ?
Non, d'abord sur la tranche inférieure, ce serait le cas si par exemple pour la tranche supérieure de l'imposition, on la rétablissait à 65% là où elle était il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui elle a été diminuée à 40%. On ne peut pas prendre telle ou telle mesure en nous en miroiter un virage social. Aujourd'hui, je pense que la réalité telle qu'elle est ressentie par des millions de personnes, c'est qu'on est capable de trouver des dizaines de milliards d'euros qui passent au-dessus de nos têtes, qu'on ne retrouve ni dans l'investissement, ni dans l'emploi, ni dans les salaires, et qui vont renflouer les banques. Et quand Nicolas Sarkozy dit que ça ne coûtera pas un centime d'euro à la population. Enfin, je veux dire, de qui se moque-t-on ? C'est une blague. Aujourd'hui, un salarié ou des usagers qui se mobilisent pour plus de services publics dans le domaine hospitalier, dans les transports publics ou à la poste, on leur dit que ce n'est pas possible parce que les caisses sont vides. Un salarié qui résiste à la fermeture de son usine dans des entreprises du privé tombe face à des patrons qui disent c'est pas possible, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et visiblement, l'argent, on peut en trouver, mais toujours pour les mêmes, pour une minorité d'individus. Donc moi, j'ai écouté attentivement le discours. Je ne sous-estime pas notre adversaire, voilà, et on le respecte par rapport à ça, par rapport à notre combat qu'on doit mener, c'est tout. Mais en tous les cas, nous, on a trouvé beaucoup de raisons qu'il y ait une suite au 29 janvier, les 2,5 millions de manifestants, et qu'il y ait surtout une convergence possible de toutes ces luttes locales qui existent dans chaque département.
Alors justement, les syndicats doivent décider lundi si une nouvelle mobilisation doit intervenir avant ou après leur rencontre avec Nicolas Sarkozy. Allez-vous attendre leur choix ?
Bah écoutez, nous on souhaite qu'il y ait un mouvement le plus unitaire possible, un mouvement massif, unitaire et radical. Pour nous, c'est pas contradictoire. Je pense que la bonne clé des mobilisations victorieuses, c'est ce qui s'est produit au moment du contrat de première embauche. On se souvient que l'ensemble de la gauche sociale et l'ensemble de la gauche politique étaient au diapason des mobilisations, et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Maintenant, j'imagine pas une seule seconde qu'il ne puisse pas y avoir de suite au 29 janvier, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et je dirais, d'un certain point de vue, le peuple de Guadeloupe et de Martinique maintenant, nous donne un peu la voie à suivre de ce que pourrait être par exemple une grève générale avec en même temps un mouvement populaire, c'est-à-dire un mouvement social et une partie significative de la population qui s'implique dans un tel conflit.
Ça vous a choqué d'ailleurs que Nicolas Sarkozy n'ait pas dit un mot sur la Guadeloupe hier soir ?
Je pense que c'est pas anodin. Je pense que c'est pas anodin parce que on a cette discussion depuis le départ, mais si on regarde bien, je crois que le gouvernement a quand même du flair pour sentir la situation. Et il comprend bien que dans le climat actuel, n'importe quelle petite goutte d'eau peut faire déborder le vase. Je me souviens de son pas de deux sur la réforme de l'éducation dans les lycées. À l'époque, c'était un peu le syndrome grec qui l'inquiétait. Vous vous souvenez qu'en Grèce, il y avait ces grandes mobilisations. Quand on a vu débouler les premières vagues de lycéens dans la rue, le gouvernement a pensé à ça. Aujourd'hui, c'est peut-être le syndrome qui vient des Antilles qui inquiète le gouvernement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont de la mémoire, il faut savoir qu'avant la grande grève générale de mai 68, il y a eu des grèves générales en 67 dans les Antilles.
Olivier Besancenot, parlons un peu politique. Le NPA, votre nouveau parti, peut-il devenir une force motrice pour une mobilisation de la gauche, ou est-ce que c'est à l'inverse un risque d'émiettement pour la gauche et la gauche du PS ?
Non, nous on fait pas ça pour émietter, on fait ça pour rassembler les forces anticapitalistes en partant d'un constat. C'est qu'il y a une opposition face au gouvernement qui est une opposition sociale. Elle existe depuis le départ, mais elle n'a pas de correspondant politique. Et lutter, résister, protester, ça ne suffit pas. Il faut savoir le faire, mais il faut être capable d'avoir un outil politique qui porte un programme alternatif global. Le gouvernement mène une mesure comment une politique globale dans tous les domaines. Chacune des mesures du gouvernement a une cohérence avec les autres. Ben, je crois qu'il est temps d'opposer à cette offensive globale une contre-offensive globale, et c'est ce qu'on cherche à faire humblement à notre échelle avec ce nouveau parti anticapitaliste.
Est-ce que vous répondrez à la proposition de front commun du Parti communiste, sachant quand même que le Parti communiste ou le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à s'allier avec le PS, alors que vous, pas du tout?
Bah, c'est toute la discussion, vous avez raison de le dire. Nous, on propose en tous les cas pour les élections européennes de fédérer toutes les forces anticapitalistes, mais qui sont prêtes à assumer leur indépendance totale vis-à-vis de la direction du PS. S'il s'agit de faire qu'un seul bon coup électoral au moment des européennes pour que certains ensuite, aux élections suivantes, en l'occurrence les régionales, retournent dans le giron du Parti Socialiste, je crois qu'on aura, déçu de nombreux espoirs, et il n'y a pas pire qu'un espoir déçu en politique. Donc pour nous, un front durable, c'est un front qui dure pas simplement que dans les élections, mais dans le cadre de la situation sociale. Et nous, on tend une main fraternelle à toute la gauche radicale pour leur dire que la séquence politique, elle a lieu maintenant, et le débouché naturel des luttes sociales actuelles, c'est pas d'abord les élections européennes, c'est de savoir si oui ou non on va remporter des victoires sociales. La situation sociale et le rapport de force ne sera pas le même si le gouvernement réussit à faire passer les mesures qu'il annonce, ou si au contraire il est stoppé par la rue. Et je ne vois pas qui à gauche aurait à gagner à ne pas comprendre ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'à notre initiative, dès le mois de décembre, on a d'abord réussi à réunir une dizaine d'organisations de la gauche pour faire une déclaration. C'était minimum, mais c'était déjà ça à la veille du 29 janvier. On a convoqué une nouvelle réunion. Cette fois, si le Parti Socialiste et Lutte Ouvrière se sont joints, on a fait une nouvelle déclaration. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer aux actes. Je sais que les salariés, par exemple, de l'ancienne fonderie de Renault, de la SBFM en Bretagne, par exemple, résistent de façon radicale au licenciement. Bah, ce serait peut-être bien, j'en fais la proposition, que tous les responsables politiques des formations de gauche, de Martine Aubry, d'Arlette Laguiller, de Jean-Luc Mélenchon, Marie-Georges Buffet, moi-même et d'autres, s'ils le souhaitent, allons le même jour, à la même heure, apporter notre soutien à ces salariés.
Bon, l'appel est lancé, on verra les réponses. Un mot sur votre parti pour conclure, Olivier Besançon. Qui sont les nouveaux adhérents? Est-ce qu'il y a des changements sociologiques dans ce parti, et est-ce qu'il va changer de nom?
La question du nom figure à l'ordre du jour, donc doit être votée demain. Il y a plusieurs propositions, dont le NPA, mais d'autres. Donc il peut s'appeler NPA comme il peut s'appeler autre. Il y a 21 propositions, je ne vais pas vous la faire maintenant parce que d'accord, je pense que vous allez perdre des auditeurs. voilà, et quant aux autres questions, voilà, elles seront débattues et tranchées dans le cadre du congrès.
Ouais. Mais les nouveaux adhérents, c'est qui? C'est des jeunes? C'est
la Alors même, oui, sociologiquement, la même... pardon. Ouais. Pardon, oui, sociologiquement, il y a un changement substantiel. Je crois que pour aller vite, les délégués que vous retrouvez dans notre salle de congrès, bah, c'est ceux et celles qu'on pourrait retrouver dans une rame de métro, dans un bus, c'est-à-dire à l'image de la majorité de la société, à l'image et aux couleurs de la majorité de la société. Et je crois que maintenant, pour nous, le défi, c'est aussi de faire émerger, et on s'en est donné l'objectif, de nouveaux porte-parole qui soient capables de donner les visages justement de ce qu'est notre organisation, avec des ouvrières d'entreprises du privé, par exemple, ou avec des habitants qui viennent des quartiers populaires. Donc on aura plusieurs porte-parole, plusieurs visages pour montrer aussi que on est une force collective.
Merci Olivier Besancenot, en direct de ce congrès fondateur du nouveau parti anticapitaliste, Catherine Potier.